C'est à l'automne dernier, au moment de l'Avent, juste avant Noël, que la nouvelle traduction du Missel est entrée en vigueur. Et elle deviendra définitive et obligatoire dans quelques semaines, au printemps. Sans quoi j'aurais gardé l'ancien Missel. Ne serait-ce que pour son format, et puis parce qu'il faut dire les choses honnêtement, cette nouvelle traduction n'est pas bonne. Ce n'est pas une réussite. L'autre jour, je célébrais des obsèques, la prière sur les offrandes, disait « si la faiblesse humaine l'a souillé ». Avant, l'ancien texte portait « si la faiblesse humaine l'a marqué ». Non, c'est une traduction qui est plus littérale, mais voilà, on aurait quand même pu occuper les académiciens français à trouver quelque chose du bon français, qui soit bon à la fois français et qui soit bon d'ailleurs pour les âmes. Mais obéissance oblige. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle c'est difficile de changer, pas en raison des changements, c'est que la prière, notre prière, surtout commune, a besoin de stabilité, a besoin de répétition, a besoin bien sûr de fidélité, mais de stabilité. Plus encore dans un monde qui bouge sans cesse, avec toutes sortes de changements dits sociétaux, changements techniques. Il faut que l'essentiel de nos vies soit véritablement un roc stable, mais que nous apprenions nous-mêmes la vertu de la répétition. Comment est-ce qu'on devient un champion? Vous le voyez très bien en ce moment avec les Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on devient un champion? À force d'entraînement, d'exercice, à force de répéter, de recommencer sans cesse, jusqu'à ce que ça devienne fluide, naturel. Bien sûr, en y étant de tout son cœur, en n'y étant pas faisant pour la prière du bout des lèvres. Pour que dans la prière, nos paroles montent réellement vers Dieu, il faut qu'elles descendent déjà dans notre cœur. Il faut que nous puissions creuser jour après jour, pouvoir descendre effectivement dans l'intériorité de notre vie. Ça ne se fait pas en une fois, ça demande beaucoup de répétitions et d'exercices pour pouvoir toucher ce que nous avons de plus profond et de plus vrai. Dans un registre très particulier, demain c'est la Saint-Valentin. Cette semaine, nous avions la réunion ici avec les fiancés que j'accompagne au mariage. Je leur demande, ici, je leur fais une demande très spécifique. Je leur demande de m'écrire une lettre d'amour. Vous comprenez, pas à moi, enfin. D'écrire une lettre pour dire ce qu'ils aiment chez l'autre. Pourquoi ils se marient, pourquoi ils sont prêts à s'engager toute leur vie. Ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils aiment moins. Je les préviens d'ailleurs délicatement, je dis, ça risque de s'aggraver. C'est ce que m'ont dit les plus anciens. C'est ce que je constate parfois. Et surtout de prendre conscience qu'on ne change pas l'autre. On ne change pas l'autre à sa convenance. Nous changeons, mais nous ne changeons pas les autres comme nous le voudrions. Et cette lettre, cet écrit, ne dépend pas, ce n'est pas une question de niveau d'étude. L'année dernière, ça a été tout à fait remarquable. La même semaine, j'ai reçu deux lettres qu'ils m'ont envoyées. L'un d'un homme qui avait sur le papier, c'était très impressionnant son CV, ses diplômes, ses responsabilités, c'était étincelant sur le papier, ce qu'il m'avait envoyé, oh là là, non, pitoyable. Pitoyable, c'était vraiment bâclé. Et surtout, c'était d'autant plus triste, d'autant plus triste, en comparaison, dans la même semaine, un autre fiancé qui n'était, j'allais dire, même pas baptisé, qui s'y était pris, qui, pas baptisé, mais qui s'y était engagé, qui n'avait pas fait d'études, qui avait pas le bac. Il m'a écrit un texte admirable, admirable, vraiment de profondeur, de sincérité, une vraie lettre d'amour. Il était allé le chercher au plus profond de lui-même, quelque chose de vrai. Dans le livre des Actes des Apôtres, au début au chapitre 4, Pierre et Jean annoncent en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts, ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture. Les chefs des prêtres, les anciens, furieux de voir ça, les font arrêter, les font comparaître, et là, ils s'aperçoivent de quoi? Que c'était des hommes sans instruction. des hommes simples, ordinaires, des hommes du peuple. Et voilà qu'ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Le texte dit, Pierre était rempli de l'Esprit Saint parce qu'il était avec Jésus. Dans la nouvelle traduction du Missel, les changements sont quand même assez minimes. Les plus notables pour l'Assemblée et pour nos messes se trouvent, vous l'avez remarqué, dans « Je confesse à Dieu », avec cette petite cacophonie qu'on a, qui va, faut patienter, ça va durer un certain temps. Parce que j'ai mis de côté le principal changement, parce que j'ai pu le mettre de côté parce qu'il est optionnel, pour la prière de fin de l'offertoire. Vous savez, à la fin de l'offertoire, justement pour réunir la prière de l'Assemblée, le prêtre disait et peut toujours dire, c'est ce que je dis à chaque messe, « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » Et vous répondez d'un seul cœur, « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Eh bien, il y a une nouvelle formule, donc optionnelle, qui est traduite plus littéralement du latin, et que je ne vous ai pas proposée parce qu'elle est quand même difficile à mémoriser, pas pour le prêtre puisqu'il a le missel sous les yeux, et qui dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Mais l'Assemblée répond alors « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. » On aurait commencé tout petit, on y serait arrivé. Je laisse ça à mes successeurs. Cette phrase, pour compliquée qu'elle puisse nous paraître, c'est la très exacte interprétation des béatitudes de l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous avons l'habitude de dire des béatitudes, surtout de celles de Saint Matthieu qui sont plus développées, plus connues, qu'elles sont des promesses de Dieu. Assurément, des promesses. Quelles sont, c'est ce que rappelle le catéchisme, le portrait de Jésus-Christ. Encore mieux. Mais il faut ajouter une troisième dimension justement dans leur réalité trinitaire. Ces béatitudes sont dans l'Esprit Saint l'expression de l'offrande de nos vies. Heureux ceux qui offrent au Seigneur ce qu'ils subissent. Toute la vie chrétienne est là, dans l'offrande de nos vies. Et tout le mystère de la messe est là, dans l'offrande par le Christ de sa vie, pour nous, pour notre salut, pour notre bien, celui de toute l'Église. Offrir à Dieu ce qui nous coûte, y compris ce qui nous est pénible, l'offrir par amour, ça s'appelle un sacrifice. C'est ça un sacrifice. Eh bien, ce que nous vivons et ce que nous subissons de douloureux, de pénible, prend du sens quand nous sommes capables de l'offrir au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'y résigner, ni que ce soit acceptable. Au contraire, il est impératif que nous le reconnaissions comme un mal, si c'est un mal. Que nous ne soyons pas dans le déni. Le Christ n'a jamais dit que c'était un bien de manquer, que c'est bien d'être pauvre, que c'est bien de pleurer, que c'est bien d'être persécuté. Il n'a jamais présenté les choses ainsi. Il nous montre simplement qu'il est possible de transformer le mal, comme il l'a fait une fois pour toutes sur la croix, de transformer le mal par la conversion de notre cœur, en acceptant, quand on n'a pas d'autre choix, de le vivre et de le traverser avec lui, comme lui, soutenu par son amour, aidé par sa grâce. Offrir à Dieu ce qui nous manque, ce que l'on subit, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un reniement, ce n'est pas un abandon de notre humanité, c'est un chemin de sanctification, c'est notre chemin de sainteté, c'est le chemin du salut. Heureux ceux qui offrent à Dieu ce qu'ils subissent de douloureux, qui le font dans la foi, par amour. Malheureux, on ne va pas dire ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes, malheureux ceux qui ne vivent que pour profiter de l'écume des jours. Chaque dimanche, nous venons ainsi à la messe pour faire de notre vie, mais notre vie tout entière, ses joies, bien sûr, ses joies et ses épreuves, ses souffrances, une offrande à la louange de la gloire de Dieu. Parfois, pendant la messe, à la fin de la messe, à la fin de la prière eucharistique, lorsque je prononce en votre nom, ce qu'on appelle la grande doxologie, par lui, avec lui et en lui, je prends le corps et le sang du Christ, la patène et le calice. Et lorsque je prononce, parfois je sursaute intérieurement parce que j'entends des voix de l'Assemblée qui le disent à voix haute en même temps que moi, un peu comme on le faisait dans les années 70. Pourquoi le prêtre, le célébrant, est-il le seul à le dire? Eh bien, ça tient au caractère, on va dire, dialogué de la messe. Parce que la réponse de toute l'Assemblée, c'est le Notre Père. C'est la prière du Seigneur. Et je vous invite cette semaine à remettre les deux en parallèle, les béatitudes et le Notre Père. Ce sont deux prières qui nous ramènent à l'essentiel, à la confiance que nous avons en l'amour de Dieu, jusque dans les événements les plus redoutables de l'existence. Offrir ce qui nous manque. Dans tout ce que nous avons à vivre de difficile, d'éprouvant, c'est notre chemin de vie, de conversion. Offrir ou subir.